Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Privolno. Qu'est-ce que c'est que Privolno? Eh bien, c'est une bourgade au sud de la Russie, à 1500 km de Moscou, au nord de la chaîne du Caucase. La grande ville proche, c'est Stavropol. Les 3 millions d'habitants sont majoritairement des Russes. Les territoires qui l'entourent sont habités par une mosaïque d'ethnies et de langues. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette région? Eh bien parce que Mikhaïl Sergeïevitch Gorbatchev y est né le 2 mars 1931. À perte de vue des terres fertiles, c'est l'un des greniers de l'Union soviétique. Avant la révolution de 1917, la moitié des paysans de cette région vivent convenablement. Ceux qui travaillent pour les églises et les monastères sont vraiment, heureux, parce qu'ils sont mieux nourris, mieux payés que les autres. J'ai dit la moitié, parce que l'autre moitié vit dans une misère qui devient épouvantable si l'hiver est rude et l'été trop sec. Gorbatchev, dans ses mémoires, dit que le sol de la maison est en terre battue, qu'on n'avait pas de lit, qu'on hébergeait même les animaux. Les Gorbatchev cultivent la terre de père en fils. Le grand-père a monté son exploitation et il n'a pas accepté la collectivisation, si bien que, pour développer sa ferme, en dépit des pressions, ça a été vraiment difficile. Il ne recevait aucune subvention, il recevait plutôt des menaces et même des injustices. Alors bien sûr, le pouvoir communiste n'accorde pas d'aide, pas de crédit, pas de matériel. Tout ça s'est réservé à quoi? Eh bien aux fermes collectives, vous savez qu'on appelle des kolkhozes. Le père de Gorbatchev a épousé la fille d'un directeur d'un kolkhoze, et tout le monde vit chez lui. C'est donc chez lui qu'est né Micha, on dit aussi Mikhaïl Gorbatchev. Il a fait ses premiers pas au milieu des vaches, des moutons, des canards et des machines agricoles. C'est chez ce grand-père communiste qu'il a vu des brochures de Marx, de Engels, de Lénine et de Staline. Sa grand-mère, qui est restée chrétienne, a arrangé un petit coin avec une icône à la Vierge. Le grand-père paternel décide de faire baptiser son petit-fils à l'église orthodoxe. Alors il faut du cran au grand-père, parce qu'on est en pleine terreur stalinienne. Mikhaïl Gorbatchev dit qu'il a souffert des divergences politiques des deux grands-pères. Ben oui, un complètement communiste et l'autre pas du tout. L'un paysan travailleur, il risque sa vie en cachant le grain. Oui, parce qu'il y avait des inspecteurs qui passaient récupérer tout le grain, les inspecteurs qu'on appelait des milices. Et l'autre grand-père, il est abonné, lui, à la Pravda, c'est un militant communiste, qui lui traque et confisque le grain. Le grand-père rétif est arrêté en 1934 et accusé de sabotage. Il est envoyé aux travaux forcés en Sibérie. Il est relâché pour bonne conduite, donc en 1935, il rentre chez lui et il travaille, évidemment. Il n'a plus sa propre ferme. On l'emploie comme porcher pour le compte du kolkhoze. Mikhaïl a 6 ans lorsque le grand-père communiste est arrêté à son tour. On l'accuse de quoi? Eh bien d'activité anti-soviétique. Alors il faut quitter évidemment le kolkhoze et retourner vivre à Privolno. Les voisins terrorisés ne viennent même pas les visiter. Après 15 mois de prison, le grand-père communiste revient, pas dégoûté, il redevient même président du kolkhoz en 1939. 22 juin 1941. Si vous vous souvenez, c'est la rupture pendant la guerre du pacte germano-soviétique. Donc les chars allemands déboulent en URSS. La Wehrmacht descend vers le Caucase. Pourquoi ? Ben bien sûr à cause du pétrole de Bakou. En août 1942, le village de Privolno est occupé. Alors plus d'école. Mikhaël alors travaille au champ, il entretient le potager et il nourrit la vache. 5 mois d'occupation. Le village est libéré le 21 janvier 1943. 9 mai 1945, c'est la fin du conflit mondial. Alors chez les Gorbatchev, on fête le retour du père qui a été blessé à la guerre. On vend 2 moutons pour que Micha puisse avoir des bottes, car il marchait pieds nus, pour retourner à l'école. Et comme il n'a pas été à l'école pendant un certain temps, il a 2 ans de retard qu'il va très vite rattraper. Il va au collège après, à une ville à 20 km. Alors comme c'est à 20 km, son père dit qu'il va lui payer un lit dans une pension avec 2 autres camarades. Gorbatchev, il aime le théâtre, il est même un bon acteur. Alors il consacre tout ses temps libres aux travaux agricoles avec son père au kolkhoz et non pas au théâtre où il aurait bien voulu aller. Il pilote une énorme moissonneuse-batteuse. Micha a une relation profonde avec son père. Pas tellement avec sa mère, parce que sa mère, c'est une femme très rude, très autoritaire, qui n'a peur de rien, qui réfléchit peu. Et d'ailleurs, elle n'entendra jamais rien au métier de son fils. Elle suit sa carrière de loin, elle cultive son potager, et en 1985, quand lui arrive au pouvoir, elle acceptera tout juste que sa maison soit raccordée à l'électricité. À la fin de 1949, après une récolte exceptionnelle, Mikhaël est décoré de l'ordre du drapeau rouge du travail. Eh bien, c'est un investissement pour l'avenir. Il termine ses études avec donc la médaille d'argent. Il n'y a pas un nom de diplôme, c'est uniquement une médaille. Alors la médaille d'argent, ça correspond à peu près à une mention bien. Donc en août, il quitte son village, valise à la main, son unique costume sur le dos. Où est-ce qu'il s'en va? Eh bien, il s'en va à Moscou, parce que sa médaille d'argent lui permet d'aller gratuitement à l'université. Moscou, c'est à 1500 km de là. C'est la première fois qu'il voyage. Et alors, quand il arrive dans la capitale, il est complètement éberlué. C'est un monde fou! Il n'y a pas de voiture individuelle. Il y a plein de petits camions malodorants. En revanche, il admire quelque chose que tout le monde admire aussi d'ailleurs, c'est le métro, tout en marbre, avec des lustres de cristal. L'université, c'est l'une des 7 sœurs qu'on appelle. Ce sont des gratte-ciel, on appelle ça des gratte-ciel, on les appelle les 7 sœurs, érigées. Pourquoi ? Ben pour rivaliser tout bonnement avec New York. Nous allons faire une première pause musicale.
Туманы мои, растуманы, ой, родные.
Michael aurait bien, je dis toujours Michael, c'est Mikhaïl, il faut dire. Hein. Michael aurait bien voulu faire des sciences physiques. Eh bien, il est recalé. Alors, finalement, il s'inscrit où donc ? En fac de droit. Il s'intéresse aux sciences humaines. Il loge donc dans un foyer universitaire. Bon, comme tous les immeubles de Moscou, c'est un gros immeuble sans charme. Et les chambres sont bien sûr collectives. Ils sont 8 ou 10. Hein. Il n'y a pas de douche, ni de salle de bain. Les menus sont faméliques. Gorbatchev, alors, il court après quoi ? Ben après des petits boulots pour essayer d'améliorer l'ordinaire. À quoi est-ce qu'il ressemble, Micha ? Eh bien, il parle bien. Il est beau garçon, il est gentil, il est bien élevé, il ne fume pas, il ne boit pas, ça c'est extraordinaire. Il se lie d'amitié avec un jeune tchèque qui s'appelle Zdenek, c'est difficile à prononcer, hein, Mlinar. Et ce dernier d'ailleurs va devenir un des acteurs du printemps de Prague. Dès son arrivée à l'université, Gorbatchev donc s'inscrit à la section locale de l'Union des jeunesses communistes. Dans l'URSS de Staline, il n'y a pas d'association culturelle, ni de groupe religieux, ni de club de réflexion autonome. On doit faire partie des jeunesses communistes. Un jeune soviétique de 20 ans ne peut envisager une quelconque intégration sociale si justement il ne passe pas par cette filière-là. Après quelques années, les étudiants les plus ouverts, comme Michael et Raïssa, sur qui je vais revenir plus tard, donc ils vont aiguiser leur regard critique, bien sûr, mais dans une sphère strictement privée. Et que critiquent-ils ? La bureaucratie universitaire, le dogmatisme des études, le manque d'ouverture des enseignants, la censure dans les bibliothèques. Pour eux, les cours de matérialisme dialectique sont de véritables corvées. Les professeurs sont insipides, ils commentent en langue de bois des textes fondamentaux de Lénine et de Staline. Ils ne connaissent rien des dessous de la politique. Pendant l'hiver 1952-53, l'étudiant Gorbatchev a-t-il entendu parler d'un complot des blouses blanches ? Vous savez, c'était cette conspiration absolument imaginaire, inventée par Staline, qu'une poignée de médecins seraient majoritairement juifs et il fallait les éliminer. En 1950, ces jeunes isolés du reste du monde font plutôt confiance globalement, on peut dire, à leurs dirigeants. Mais ils sont trop intelligents pour tout avaler de la propagande officielle. En 1952, Gorbatchev est élu délégué de sa faculté de droit et adhère au Parti communiste. 5 mars 1953, dans la salle numéro 16, un professeur, la mine grave, vient annoncer la mort du petit père des peuples à l'âge de 74 ans. Vous avez deviné bien sûr qu'il s'agit de Staline. Pour Gorbatchev, comme pour la majorité de ses camarades, c'est une tragédie pour tout le pays. Tout le monde pleure, hein ? Nous, on se dit, c'est pas possible, mais si, si, si. Revenons à 1951. Micha, quelqu'un lui dit, « Micha, viens voir, il y a une de ses filles, une nouvelle. » C'est vrai qu'elle est jolie, Raïssa. Cheveux châtains, yeux noisettes, la taille mince, la démarche décidée. Eh bien, c'est le coup de foudre, j'ajoute, de son côté à lui. Parce que elle est trop sérieuse pour succomber rapidement à qui que ce soit. Elle s'appelle Raïssa Maximovna Titarenko, un nom ukrainien. Son père est employé au chemin de fer. Les grands-parents étaient des paysans. Elle termine ses études avec, elle, la médaille d'or, c'est-à-dire la mention très bien, ce qui lui permet d'intégrer l'université de Moscou. Elle est sociable, organisée, méthodique, on pourrait même dire presque maniaque. Les deux jeunes gens, finalement, ne se quittent plus. Ils aiment la littérature, la poésie, l'opéra, la peinture. Au début du printemps 1953, ils décident de se marier. C'est fait le 23 septembre 1953 dans un bureau des mariages. Pas d'église, pas de grande fête, pas d'alliance en or, on n'a pas d'argent. Hein. Donc ils ont prévenu leurs familles respectives à la dernière minute. Cette même année, il déménage dans une nouvelle résidence universitaire qui a des petites chambres individuelles. Ça, c'est un luxe inouï pour l'époque. Je dis bien individuel parce que même marié, on n'est pas deux dans la même chambre. Il y a des surveillantes à chaque étage qui viennent voir si un jeune homme n'est pas resté dans la chambre d'une jeune fille. Micha passe son dernier examen le 30 juin et on lui annonce qu'il n'aura pas le poste escompté. Alors ils en ont assez de Moscou tous les deux et ils décident de partir pour le sud dans la région de Gorbatchev. En réalité, c'est Micha qui part en premier. Raïssa, elle va en vacances chez ses parents et elle le rejoindra après. Alors Micha, elle est attendue par le procureur régional et dans cette ville qui s'appelle Stavropol. Il s'y installe, c'est une ville charmante de 120 000 habitants, très très verte, on y circule à pied, et les gens se parlent, je précise ça parce que ça ne va pas être la même chose à Moscou, les gens se saluent, la ville est agréable, seulement il n'y a pas de chauffage urbain, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas le tout à l'égout. Donc, Michael travaille et au bout de 10 jours de travail, il démissionne parce que la bureaucratie, avec son cortège d'indifférence, d'incompétence et de favoritisme, ne l'attire pas du tout. Il est alors engagé comme adjoint direct de l'Agitprop. Qu'est-ce qu'on appelle l'Agitprop ? C'est une organisation de la propagande communiste, du Komsomol. Le Komsomol, c'est une organisation formée donc des jeunesses communistes. Alors, il sillonne la région pour y prêcher la bonne parole. Il est sur le terrain des villages sans électricité, sans journaux, sans radio, sans café, sans route carrossable. Des responsables locaux qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de vision, qui, j'ajouterais, qui n'ont pas de culture, et qui parfois sont même sans scrupules. Le couple vit dans une chambre de 11 mètres carrés. Que possède-t-il ? Écoutez, pas grand-chose. Un lit en fer, deux chaises, une énorme caisse de livres et une table. Nous allons faire une deuxième pause musicale.
Вдруг с тобой, Вася Васильочек, ой, милок,
ой, Вася Васильок.
Понимаешь ли, браток, сердце ласки просит.
Бить врага вопрос другой, шуткой веселее. Нет письма, а дорогой, и думушки темнее. Ой, милок!
Ой, Вася Василек!
Donc Gorbatchev travaille, mais Raïssa, eh ben le pays a besoin d'ingénieurs, de mécaniciens, pas de diplômés en lettres et sciences humaines. Elle va rester 4 ans sans poste fixe. Elle trouve une activité non rémunérée, elle donne des conférences pour une organisation. Et pour ces conférences, elle a les pires difficultés à se procurer certains livres, par exemple la Bible, les Évangiles et le Coran. Enfin, on lui propose un poste de professeur à plein temps. Ce sera bref. Le 6 janvier 1955, dans la petite chambre, naît une petite fille, Irina. Sans le dire, la grand-mère fait baptiser Irina dans une église orthodoxe, à l'insu de ses parents. Le couple se voit attribuer alors 2 pièces, mais dans un immeuble commun. Ça veut dire que les habitants partagent la cuisine, la salle de bain, les toilettes et le vestibule. Faut s'organiser, hein. Au printemps 1956, une véritable tempête s'abat sur le Parti communiste. Le 24 février, à la fin du 20e congrès du parti, Nikita Khrouchtchev lit un rapport aux 1436 délégués qui sont réunis à huis clos. Et dans ce rapport, que dit-il ? Il dénonce les déportations massives, les arrestations arbitraires. Il parle des erreurs grossières du dictateur, Staline, dont la gestion de la guerre. Il y révèle le caractère irascible et violent de Staline. Et le rapport est publié. Les dirigeants locaux n'en croient pas leurs yeux. À Stavropol, Mikhaïl crée alors un club de discussion municipale. Il a vraiment les qualités pour le diriger parce que c'est quelqu'un de dynamique, de franc, qui a un contact direct avec les gens. Il est extrêmement simple et il a une qualité énorme. Il sait écouter. Il est capable, après avoir écouté quelqu'un, de modifier son point de vue. Ça, en URSS, c'est extraordinaire. C'est une preuve d'intelligence, hein, dans un pays qui n'a pas beaucoup la culture du dialogue. Il parle bien, il parle sans notes et sur n'importe quel sujet. Raïssa, elle, a fini par trouver un poste de maître de conférence à la faculté d'économie de l'Institut supérieur d'agriculture de Stavropol. Elle se prend de passion pour une discipline qui n'existe pas en URSS, la sociologie. Dans les années 30, les idéologues du régime ont trouvé que cette matière était indésirable et dangereuse. Ils disaient « des sociologues, pourquoi faire ?» Alors elle va mener un véritable travail d'enquête dans la campagne. Elle va recueillir quelques 3130 questionnaires. Et en 1967, elle soutient sa thèse, titre de la thèse « Apparition d'aspects nouveaux dans le mode de vie paysan dans les fermes collectives ». C'est une thèse qui manque pas de courage. Gorbatchev lui est nommé premier secrétaire du Komsomol de la ville de Stavropol. Alors ça, le Komsomol, c'est simplement un regroupement. Il fait partie au niveau local de ce qu'on appelle la nomenklatura. La nomenklatura, le vrai mot russe, ça veut dire « liste des noms ». En réalité, ça veut dire « liste des noms des privilégiés du régime ». Alors, il dispose d'une automobile. Bon, elle n'est pas à lui, mais enfin bon, il peut l'utiliser. C'est une sorte de jeep russe. Et aux merveilles, un appartement individuel. Alors, vraiment, ça, c'est extraordinaire. Lors de réunions à Moscou, il fait la connaissance d'un jeune plein d'avenir, Édouard Chevardnadze. Il deviendra ministre des Affaires étrangères. Au cours du congrès, le 30 octobre, on prend la décision de retirer le corps embaumé de Staline du mausolée de la Place Rouge. Gorbatchev est là, il se méfie en son fort intérieur du volontarisme du nouveau maître de l'URSS. Je parle évidemment de Khrouchtchev. Hein. Il désapprouve ses décisions brouillonnes, surtout en matière agricole. En novembre 1962, Khrouchtchev lance une nouvelle réforme. Il divise en deux l'appareil du parti qui doit se réorganiser en deux branches, une industrielle, une agricole. Et pour diriger le service des cadres, on choisit Gorbatchev. Nous sommes le 1er janvier 1963. La gestion des cadres, c'est le nerf du pouvoir dans ce pays immense. Il reste à ce poste 4 ans. 14 octobre 1964, Khrouchtchev est limogé. Ou plutôt, le camarade Khrouchtchev a démissionné en raison de son âge et de sa santé. C'est ce qu'on lui fait écrire. Hein. Gorbatchev est nommé alors premier secrétaire du Garkom du parti de Stavropol. Il a 35 ans et il emménage dans un ancien hôtel particulier. Sous sa direction, Stavropol se couvre d'échafaudages, de quartiers entiers qui sortent de terre. Les rues sont asphaltées, on installe un réseau de trolleybus, on construit un palais de la culture, une maison du livre, une piscine, des parcs. En juillet 1968, Mikhaïl est nommé par le Kremlin deuxième secrétaire du parti pour toute la région de Stavropol. Cette même année, le 21 août, on apprend l'invasion de la Tchécoslovaquie par les chars russes. Eh bien, à Stavropol, le parti applaudit vigoureusement à l'écrasement du printemps de Prague. Le 10 avril 1970, Mikhaïl est nommé premier secrétaire du comité du PC pour la région. Il a 39 ans. C'est pas banal dans un système où l'on remplace rarement par un jeune les camarades vieillissants. De plus, le voilà quelqu'un qui est originaire du lieu. On pense que sa candidature a été soutenue par quelqu'un d'important, par Youri Andropov, le puissant chef du KGB. Alors que ce dernier passe ses vacances dans la région, Gorbatchev est venu le saluer et même jouer au domino avec lui. On a une photo. Andropov a été séduit par Gorbatchev. Brejnev le convoque pour une conversation de plusieurs heures. Il nomme alors Mikhaïl membre du comité central. Promu premier secrétaire d'une grande région agricole, Micha se jette alors dans le travail. Ben oui, il faut se rappeler qu'il est fils et petit-fils de paysans. Donc il a du mal à admettre qu'une région aussi fertile rencontre des difficultés chroniques pour nourrir sa population. Alors il concentre son attention sur le choix technologique, sur les bonnes et les mauvaises pratiques, sur la discipline de travail. Et parmi les grands projets, eh bien il a celui de l'irrigation de cet immense territoire où la steppe est régulièrement asséchée par les vents venus de la mer Caspienne. C'est un chantier pharaonique. Il lutte de même pour la jachère et il est toujours soutenu par Brejnev. Brejnev qui est l'un des trois. Vous savez, ils sont trois à avoir le pouvoir en même temps. Il y a Podgorny, Brejnev et Kosygine. Dans sa région, Micha refuse alors de fermer les yeux sur les mensonges statistiques, sur l'irresponsabilité générale, sur le détournement des ressources, sur le vol de biens de l'État. On peut même dire, voire sur l'escroquerie organisée. Et il est toujours soutenu à ce moment-là par Brejnev. Tous ses collaborateurs nous son dynamisme, son obstination, sa capacité de persuasion et son réalisme. En 1976, il généralise la gestion souple dans les kolkhozes parce qu'il se dit « Une brigade de kolkhoziens travaille mieux si on rémunère ses membres en fonction des résultats. » Eh bien, c'est une bonne idée parce qu'en 1977, on a une récolte excellente. Nous allons faire une autre pause musicale.
Пойдемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой.
Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et je vous parle de Gorbatchev. L'ascension politique de Gorbatchev se poursuit sur le terrain parlementaire. Il a été élu député au Soviet suprême. En fait, ce mandat de député n'est qu'une fiction démocratique parce que le Parlement, ça n'est qu'une chambre d'enregistrement aux ordres, bien sûr, du parti unique. En 1979, il devient président de la puissante commission des lois. En 1984, il est président de la Commission des affaires étrangères du Soviet de l'Union. Un Soviet, je vous rappelle, c'est une assemblée de délégués élus. Alors cela lui vaut, évidemment, d'être bien avec son ministre. Le ministre référent, c'est Gromyko. Alors, quelle vie est-ce qu'ils mènent, Mikhaïl et Raïssa, maintenant, qui, lui, l'a grimpé dans la hiérarchie? Eh bien, maintenant, ils vivent dans un appartement de 3 pièces. Extraordinaire, hein? Ils jouissent d'une petite datcha, c'est-à-dire d'une maison de campagne. Alors, ça n'est pas à eux, bien sûr, hein, c'est à l'État. Bon, dans un bois, ils disposent d'une voiture de fonction et même d'une femme de ménage. Et la petite Irina, elle l'appelle tante Xenia. Mais on peut dire que le ménage ne roule pas sur l'or. Pas de salaire énorme, pas d'indemnité confortable. Micha va au bureau à pied et Raïssa continue d'enseigner. Irina, elle, va à l'école tout simplement municipale de son quartier. À l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on en parlait, les magasins sont vides. Si bien que Raïssa profite des voyages d'affaires de son mari pour lui passer commande. Alors de quoi ? Bah de médicaments, de stores, de sous-vêtements, de chaussures, de casseroles, de détergents. Privilège quand même appréciable pour eux, ils ont un accès aux soins médicaux. Leur distraction, ben, c'est pas énorme parce qu'il n'y a rien. Donc de grandes promenades en forêt, lecture et échecs. Un privilège quand même marquant. Les voyages, d'abord à l'intérieur du pays. Puis Micha commence à voyager hors des frontières. En 1966, il est allé en voyage organisé par le parti en Allemagne de l'Est. Il y découvre des magasins d'électroménager où il y a de l'électroménager. Les apparatchiks, ce qu'on appelle les apparatchiks, c'est les membres de l'appareil d'un parti, achètent à tour de bras alors des réfrigérateurs, des aspirateurs, des cafetières électriques. Ça se passe moins bien en Tchécoslovaquie, où la normalisation soviétique est en marche. À Brno, par exemple, les ouvriers d'une usine tournent le dos à la délégation. À Bratislava, aucun officiel ne les accueille. Pour un soviétique, le vrai saut dans l'inconnu, ce serait évidemment d'aller découvrir l'Occident. Alors l'Occident, c'est un monde épouvantable, il est haï, mais c'est quand même assez attirant. Visiter Londres, Paris, Rome, c'est accorder aux communistes méritants et aux personnes sûres. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il serait tentant de manquer l'avion du retour et de demander l'asile politique. C'est arrivé pour pas mal de sportifs et pour pas mal d'artistes, en particulier le danseur Nouraïev. C'est le cauchemar du KGB, ça. Hein ? Gorbatchev ne fait pas partie de cette catégorie. En octobre 1972, il part pour la Belgique à la tête d'une délégation. En mai 1975, il va en RFA. Le pays qui l'a le plus fasciné, vous devinez ? La France. Il y est venu 2 fois, en novembre 1976, à l'invitation du Parti communiste français. Et l'année suivante, avec Raïssa, il y passe 3 semaines de vacances. Pour eux, ils sont dans un paradis, littéralement. La veille de repartir, il assiste à une réunion de l'Assemblée nationale dans les tribunes réservées au public. À l'abri des micros du KGB, parce que même chez lui, il y a des micros. Micha et Raïssa se remémorent les gentillesses des capitalistes. Alors quand je vous dis à l'abri des micros, eh bien, toutes les fois qu'ils ont à parler comme cela, ils vont se promener en forêt. Donc, il n'y a pas de micro en forêt, hein. Il remarque qu'incontestablement, on vit mieux en Occident qu'en Russie soviétique. De retour à Stavropol, les dimanches sont plutôt mornes. Le couple alors invite. Ils plaisent beaucoup aux vieux messieurs du parti parce qu'ils sont cultivés, pas du tout obséquieux. Parmi les habitués, un monsieur qui n'est pas n'importe qui, Yuri Vladimirovitch Andropov, le tout-puissant chef du KGB. Un monsieur qu'il vaut mieux avoir comme ami que comme ennemi. C'est lui qui a piloté la répression de l'insurrection de Budapest. Il sait tout sur tout le monde. Il a, lui, les vraies statistiques. Il sait parfaitement que le régime soviétique n'est ni le paradis terrestre, ni un modèle pour le reste de la planète. Cette personnalité énigmatique et redoutée, eh bien, c'est pas le super flic cruel et machiavélique que l'on croit. Alors bien sûr, en tant que patron de la police politique d'un régime, encore très stalinien, il ne fait preuve d'aucune tendresse à l'égard des opposants. Mais c'est un homme cultivé, intelligent, qui n'aime pas les fastes du pouvoir, ni les banquets où l'on se saoule. Il est d'un abord extrêmement simple, il préfère manger des chashliks, ça ce sont des brochettes de mouton, dégustées autour d'un feu de camp où l'on récite des poèmes ou on chante des chansons populaires. Gorbatchev rencontre aussi souvent, en privé, un autre homme puissant, Alexei Kosygin, le premier ministre. C'est un homme austère, discret, qui lui aussi déteste les banquets, les cérémonies. Ils marchent beaucoup ensemble. Le 26 novembre 1978, Gorbatchev apprend que Brezhnev a cherché à le joindre tout l'après-midi. Et pourquoi donc? Eh bien, c'est pour lui annoncer qu'il est promu secrétaire du comité central chargé de l'agriculture. Il a 47 ans. Un genou pour ces gens-là, puisque la moyenne d'âge des dirigeants de l'URSS, c'est 67 ans. Donc Mikhaïl et Raïssa quittent Stavropol pour Moscou le 6 décembre 1978. Pour Raïssa, enfin des théâtres, enfin des musées, des expositions. Et ils changent évidemment de standard de vie. Ils reçoivent 1500 roubles par mois. Mais qu'est-ce que ça vaut 1500 roubles dans un pays où la monnaie n'est pas convertible, où la propriété privée est inexistante et où les magasins sont vides? Et alors les avantages d'une carrière politique en URSS, finalement, ce ne sont pas des avantages financiers, mais plutôt des avantages matériels. Ils ont maintenant une voiture. Je rappelle que ça appartient quand même tout ça à l'État. Hein. Ils ont une voiture avec chauffeur, une prime spéciale pour des vacances et des magasins spéciaux et la gratuité du logement. Ils ont 4 pièces, une merveille, dans un immeuble bien gardé. Ils disposent aussi d'une datcha et de personnel de service. Mais écoutez bien, un personnel de service qui est recruté par le KGB. Il y a aussi, aux quatre coins de l'URSS, des dachas spéciales pour les membres du comité central ou du politburo. Ce qu'on appelle le politburo, c'est le bureau politique du comité central, où ces gens-là peuvent se reposer. Première surprise de Gorbatchev, de nombreux dirigeants font construire discrètement, des dachas particulières, avec piscine, avec cours de tennis. Eh bien, parce qu'on n'est jamais trop prudent, tout dirigeant sait qu'il peut perdre son poste du jour au lendemain. Autre mauvaise surprise, la froideur des relations humaines au sein de la classe dirigeante. On se jalouse, on s'épie, on reste sur ses gardes. Raïssa n'est pas à l'aise avec les épouses des dirigeants. Comment admettre que la plupart des dirigeants ne daignent même pas saluer leurs employés, alors que pendant 20 ans, Mikhaïl a toujours considéré son chauffeur comme un membre de la famille. Tous les deux découvrent les prétentions, la désinvolture avec lesquelles les puissants, leurs femmes et leurs enfants, considèrent les biens de l'État. Il y a une petite anecdote, hein, une maman qui dit à son gamin « Attention, tu vas abîmer je crois qu'il s'agissait d'un lustre. » Et le gamin répond « Qu'est-ce que ça peut bien faire? Ça appartient à l'État. » En 1978, quand Gorbatchev entre au secrétariat du comité central, l'immobilisme menace. Brezhnev et ses affidés, je rappelle qu'un affidé, c'est une personne qui est dévouée à une autre personne, mais pour exécuter des méfaits. Hein. Donc, ils sont au pouvoir depuis 14 ans. Ce qui caractérise le pouvoir, c'est le vieillissement, la paralysie, le repli sur soi, qui conduisent à quoi? Au conservatisme, à la bureaucratie, à la corruption, au népotisme. Brezhnev lui-même est malade, presque impotent, figé dans ses gestes comme dans ses idées. Il a été victime d'un premier infarctus en 1975. Il souffre d'artériosclérose cérébrale. Il se bourre de tranquillisants. Il n'est plus valide, on peut dire, que 2 à 3 heures par jour. Alors autour de lui, les membres de la vieille garde du Kremlin passent leur temps à se congratuler et à se décorer mutuellement à toutes sortes d'occasions. C'est à celui qui aura le plus de décorations, de diplômes de complaisance et de titres flatteurs. Gorbatchev devient membre du Politburo le 21 octobre 1980. Maintenant, il a un beau bureau de style scandinave. Il se sent un petit peu perdu quand même dans cette assemblée de septuagénaires. Il est loin du président et quand il y a des réunions, il a du mal à comprendre les bredouilles de Brezhnev. Ce dernier, après son infarctus, a réfléchi à sa succession. Il pense à qui? À son vieil ami Tchernenko. On peut dire que Tchernenko, c'est une nullité. Et puis aussi à Andropov, qui est à la tête du KGB. Brezhnev décline de plus en plus. Les vraies décisions politiques et économiques se prennent dans une 20aine de commissions opaques et quelques 80 ministères techniques. l'URSS ressemble à un immense paquebot à la dérive. La seule activité est celle qui consiste à masquer ce désastre aux yeux du reste du monde. Brejnev s'éteint le 10 novembre 1982. Gromyko, Ustinov, Tchanenko se réunissent en grand secret pour se mettre d'accord sur la seule décision raisonnable. Andropov doit prendre la succession et sans délai. Alors à la façon inimitable du Parti communiste, après avoir prononcé l'éloge funèbre du disparu, Andropov ouvre la discussion générale. Il est aussitôt élu secrétaire général du parti à l'unanimité. Ce n'est que le 15 novembre, finalement, qu'on va enterrer le pauvre Brejnev. Voilà donc Andropov aux manettes. Il limoge plusieurs ministres incompétents ou corrompus. Il exécute aussi d'autres remaniements. Il sera finalement élu président du Soviet suprême le 16 juin 1983. De nouvelles têtes apparaissent alors. On a Chebrikov, qui devient patron du KGB. Ah oui, je rappelle que le KGB, ça veut dire comité. Enfin, ce sont des initiales russes, hein. Mais si je traduis, ça veut dire comité de sécurité de l'État. Vladimir Medvedev est chargé donc des sciences et de l'éducation. Alors j'en passe, il y a trop de noms, hein. Yuri Andropov ne chôme pas. Il veut sincèrement déverrouiller la vie politique soviétique, redonner du souffle à l'idéologie, abandonner tout un pan de stéréotypes. Il veut en finir avec le laxisme généralisé. Il déclare la guerre aux mauvais citoyens, aux tirs au flanc, aux absentéistes, que la police va traquer dans les parcs, les cinémas et jusque dans les salons de coiffure. L'ennuyeux est qu'Andropov tombe malade tout de suite pendant l'été 83. Il est dialysé plusieurs fois par semaine et il s'éteint le 9 février 1984. Sa mort survient trop tôt, il n'a pas eu le temps de faire le ménage ni de faire redémarrer la machine. Alors même scénario qu'à la mort de Brejnev, Tchanenko est nommé successeur. Gorbatchev est jugé trop jeune. Les dirigeants du plus puissant parti politique du monde se sont donné un leader absolument pathétique, un médiocre, déjà malade, essoufflé, presque grabataire, incapable de prononcer un discours public ou d'animer un débat de haut niveau. Personne n'ose le dire à Moscou, mais tout le monde le pense. À peine Tchernenko est-il officiellement désigné que la bagarre commence, bien sûr. Alors malgré les intrigues, les embûches, les ragots qui font le quotidien, n'est-ce pas, de tout cet environnement, Gorbatchev, lui, il a le vent en poupe et au fil des mois, il apparaît comme le successeur. Il est nommé président de la Commission des Affaires étrangères du Soviet de l'Union, la première chambre du Parlement. Ce poste va traditionnellement de pair avec celui de secrétaire du comité central chargé de l'idéologie. Le 7 novembre, lors des célébrations commémorant la révolution d'octobre, c'est Gorbatchev qu'on voit à droite du vieux Tchanenko. Il préside systématiquement le Politburo quand Tchanenko est cloué au lit. Le 10 décembre, Mikhaïl préside la première conférence nationale réunissant les premiers secrétaires de région, c'est-à-dire les dirigeants du Komsomol et ceux des syndicats, sur le thème « Travail idéologique du parti ». C'est le premier discours où on voit clairement percer le futur Gorbatchev, celui de la perestroïka, je rappelle que ça veut dire « restructuration », et de la glasnost, c'est-à-dire la transparence. Cette nouvelle fonction le fait voyager à l'étranger, notamment en Occident, où il fait sensation auprès des politiques et des journalistes étonnés de rencontrer un dirigeant soviétique, jeune, décontracté, cultivé. Le voyage qui va vraiment marquer, c'est la visite officielle de Gorbatchev, celle qu'il effectue en Grande-Bretagne en décembre 1984. Et c'est sur là-dessus que je vais terminer. Margaret Thatcher ne porte pas les soviets dans son cœur. Elle le fait comprendre à Mikhaïl dès le premier jour de sa visite, lorsqu'elle l'accueille dans sa résidence du Buckinghamshire. Le ton adopté par la dame de fer est polémique, mais même presque acerbe. Donc, Gorbatchev, alors, il se lance. Et voilà ce qu'il lui dit. « Madame, vous êtes une personne de conviction, attachée à certains principes, ce que je respecte. Mais vous devez comprendre que vous avez devant vous quelqu'un de la même trempe. J'ajoute que le Politburo ne m'a pas chargé de vous convaincre d'adhérer au Parti communiste. » L'interprète achève sa traduction. Éclat de rire général, la glace est rompue. Nous retrouverons Mikhaïl Gorbatchev la semaine prochaine. Au revoir à tous.
Radio Grand Ciel.